Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien! Bon!
Bonsoir, amis auditrices et auditeurs. Tu es bien sur Radio Canu au 102.2 ou sur radiocanu.org et tu te dis, tiens, mais cette voix, je la connais. Oui, c'est la causerie qui démarre. Il est 22h, c'est dimanche et ce soir, nous avons Clara à la technique.
Bonsoir.
Jean-Yves.
Bonsoir.
Qui n'est pas à la technique.
Non, et ça s'entend. Et Fabien qui a fait cette ouverture.
Voilà. Alors, je vous rappelle que pour nous écrire, c'est lacauseriecanu@gmail.com. Lacauseriecanu en tout petit, minuscule, @gmail.com. Et ensuite, vous pouvez aussi nous retrouver sur les blogs de Radio Canu à blogs.radiocanu.org/lacauserie ou via le site de Radio Canu. Tu cherches les émissions, on est par là. Et vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook, même si on s'en sert pas vraiment trop. Voilà.
Dit le mec.
Non, c'est vrai.
Qui commente et qui remercie tout le monde.
Non, mais on préfère passer ça sur le blog.
C'est surtout ça qu'il faut dire. Non, mais c'est surtout ça, je pense qu'il faut dire. Après, si vous voulez nous choper par Facebook, ben, tant mieux, faites-le. Enfin, faites comme vous voulez. Mais c'est surtout pour tout ce qui est commentaires, etc. On vous invite vraiment, on le répète souvent, mais je pense même toutes les semaines.
Ouais, surtout mais toi, en fait.
Oui, parce que
sur la note, c'est l'âge.
Mais vous arrêtez. Non, c'est juste que on n'oublie pas que Facebook c'est une boîte privée qui est là pour se faire du pognon. Donc si on peut minimiser les échanges qu'on va faire sur ce réseau au titre de la causerie, ben tant mieux. Autant les faire sur l'espace de la causerie et du blog. Mais après, voilà, vous faites ce que vous voulez.
Voilà. Et donc ce soir une émission un peu spéciale. En fait, on avait envie de pas forcément avoir trois thématiques comme d'habitude, mais plutôt d'enchaîner des réflexions qu'on a eues dans l'équipe de la causerie autour de ce qui se passe en ce moment en France. Alors que ce soit les gilets jaunes et d'autres mouvements sociaux, que ce soit les violences policières, parce que ça on peut dire qu'ils se lâchent bien en ce moment, et que ce soit aussi mais après on fait quoi? Voilà. Donc ça va être un peu le fil rouge de cette soirée. J'ai bien dit, on dirait Guilux.
Comment il trahit son âge.
Et donc voilà. Donc on va commencer déjà par un petit retour sur les violences autour des mouvements sociaux. Alors on va le dire, on va pas parler que des gilets jaunes ce soir, parce que c'est pas le but. Par contre, c'est vrai que samedi, c'était un petit peu la journée des gilets jaunes, hein, quand même, globalement, et aussi des marches pour le climat, parce qu'il y a des gens qui ont été arrêtés en marge des manifestations des marches pour le climat, hein, donc comme quoi ça ne touche pas que les gilets jaunes. Et donc on va rappeler qu'il y a eu 2000 arrestations samedi sur toute la France, hein, dont 1100 à Paris, et 1700 gardes à vue. Voilà. C'est assez énorme. Et surtout que c'est que ça s'arrête pas là, c'est suivi malheureusement.
Eh ben oui, on peut aller sur les suites éventuelles qu'ont connues les personnes qui sont fait arrêter et mettre en garde à vue. Eh ben c'est les comparutions immédiates, hein, qui ont avec des peines de prison ferme qui ont été prononcées. Et on l'a déjà dit, mais il faut quand même, je pense, l'intégrer pleinement, c'est que la comparution immédiate, elle bafoue juste encore plus les droits des gens. On est déjà très critique, je pense, sur la justice telle qu'on la connaît aujourd'hui.
On va appeler justice bourgeoise entre nous.
Voilà. mais l'idée, c'est que même déjà dans ce truc imparfait, il y a des trucs encore plus imparfaits, qui sont même plus de l'ordre de la perfection, c'est juste de la merde. C'est vraiment nier absolument plein de choses, en fait. Donc, et il faut aussi se rappeler que dans toutes ces histoires-là, il y a aussi certaines personnes qui ont été auditionnées par la police sans avocat. On parle même de cas de personnes mineures, en fait, qui ont été, là encore une fois, auditionnées
sans avocat. On peut rappeler quand même que c'est non seulement illégal d'un point de vue du droit français, mais c'est aussi illégal d'un point de vue du droit international, qui interdit d'interroger un enfant sans présence d'un adulte de soutien. Alors l'adulte de soutien, ça peut être un avocat, ça peut être sa famille, ça peut, voilà. Mais là, on a interrogé donc des mineurs dans un poste de police sans personne d'autre que, enfin, que les policiers avec eux.
C'est
voilà.
Ça.
Tout va bien.
Et là, on se dit, on a déjà atteint un point qui est déjà assez gerbant. Ben non, on va continuer. Enfin, on va continuer. Les flics et la justice ont continué dans cette perspective-là. Et il y a même des comparutions donc immédiates qui ont eu lieu sans avocat non plus.
Et on n'a pas dit aux gens qu'ils avaient le droit d'en avoir un.
Bien
c'est
évidemment.
Quand même, c'est quand même juste surréaliste hein, quand même quand on y réfléchit.
Mais souvent, quand on dit ça, on va te répondre « Oui, mais il faut connaître tes droits. »
Ouais.
Eh bien, alors efforçons-nous de connaître nos droits, passons-nous les infos, etc., etc. Vous avez le droit de refuser la comparution immédiate. Mmh. Évidemment, derrière, ça peut être « Attention, ça veut dire qu'on va vous garder plus longtemps, etc. » C'est un choix personnel. Vous pouvez choisir effectivement ensuite de passer en comparution immédiate pour raccourcir toute éventualité de garder derrière.
De détention, parce que on pourrait vous mettre en détention préventive, c'est un peu ce que font maintenant notamment les juges les plus pourris, hein, c'est-à-dire, ou les procureurs qui demandent ça parce qu'ils aiment bien que ça ait le procureur, souvent c'est l'excité du tribunal.
C'est la voix de l'État.
C'est pour ça.
Oui, oui.
Et donc en fait, du coup, souvent ils disent, alors du coup, on va le mettre en préventive, ce qui fait que vous refusez la comparution immédiate, mais on va vous mettre 2, 3, 4 mois en taule. Donc forcément, vous avez tendance à vous dire « Bon, je vais peut-être plutôt prendre ça ». Par contre, il y a des choses qui sont claires, c'est qu'il ne faut jamais y aller sans avocat.
Oui.
Ça, c'est clair.
Oui. Voilà. C'est ce qu'on se disait, c'est que finalement, quel meilleur moyen d'en foutre plein la gueule à plein de gens quand vous ne respectez pas le minimum, c'est-à-dire la présence d'avocat, etc., etc. Mais ce qu'on peut aussi dire comme peut-être une absence de limite pour un État qui se sentirait peut-être des fois un petit peu fragile, en fait, et qui a besoin de réaffirmer son autorité, parce qu'il faut quand même s'en rappeler, hein, c'est le seul qui a une violence et une autorité légitime.
Hein, parce que nous l'acceptons.
Parce qu'on l'accepte.
Pas l'oublier.
Donc voilà, alors on peut évidemment continuer, parce que ça ne s'arrête pas là.
Alors, comme ça ne suffisait pas, quand même, les arrestations, les comparutions immédiates... les bastonnades, tout ça. Alors, on a quand même eu le droit aussi à de l'humiliation publique. Bah oui, parce que sinon, c'est pas marrant. Je suis un peu ironique dans mes propos. Ne tenez pas croire que j'en ris vraiment.
Nous le serons peut-être plusieurs fois de manière constante.
Donc, on a 147 jeunes à Mantes-la-Jolie, donc des jeunes âgés de 12 à 18 ans qui se sont retrouvés, comme vous avez pu le voir dans les médias, à genoux, les mains derrière la tête, et pour certains, face contre le mur, après avoir été arrêtés par un escadron de vaillants gendarmes mobiles et de CRS. Voilà, donc des gens qui sont quand même bien équipés, on va le rappeler, face à des jeunes qui n'étaient pas globalement en survêtement, parce que quand vous voyez les images, voilà. Alors on nous a dit, oulala, ils avaient plein de matraques et tout. Bon, le problème, c'est que a priori, personne ne retrouve ces matraques, voilà, et personne ne retrouve ces battes de baseball, et personne ne trouve d'images de ces matraques et battes de baseball. Parce que je vais rappeler que les images que vous avez vues de ces 147 jeunes à genoux, les mains sur la tête, c'est-à-dire une position qui affectionne particulièrement les pouvoirs autoritaires, c'est quand même... des flics qui les ont filmés, et étonnamment ils n'ont pas eu le temps de filmer le pourquoi ils les ont mis comme ça. Pas de bol quand même, voilà. Et donc on va quand même aller aussi plus loin, c'est que bizarrement c'est encore une fois dans un quartier populaire qu'on va faire ça. On fait pas ça en centre-ville, vous voyez, non, on fait ça en banlieue, comme dirait le syndicat Alliance Police, qui aime bien faire des mots comme ça. Et en fait, voilà, on met des jeunes comme ça, complètement, on les humilie, on les laisse, a priori, d'après certains témoins, ils seraient restés jusqu'à 2 heures dans cette position.
C'est ce que je voulais dire,
c'est extrêmement long.
C'était pas 5 minutes dans cette position.
Ah oui, non, c'est extrêmement long. Et donc voilà, donc on est dans l'humiliation la plus crasse, on est dans la violence policière la plus basique. Alors je rappellerai juste quand même, pour ceux que ça intéresse, d'aller lire la définition de ce qu'est la torture d'après l'ONU.
Oui.
Et c'est donc dans l'article 1er du traité sur la torture, dont j'ai perdu le nom, mais vous irez le chercher. Et l'ONU considère qu'à partir du moment où vous laissez quelqu'un dans une position inconfortable plus de 10 minutes, vous rentrez dans la torture. Voilà.
C'est ça.
Ça va réfléchir. Et mais donc, on ne s'est pas arrêté là quand même dans l'humiliation.
Non, et puis on peut quand même toujours rappeler, hein, tout ça quand même, c'est dans une notion de réaffirmation d'autorité, parce que quand même, je pense que oui, c'est quand ça. Même ce qui saute aux yeux.
Oui, parce que dans la vidéo, il dit même, ah voilà une classe qui se tient bien, sous-entendant que vous, amis profs, hein, vous êtes quand même un petit peu des merdes.
Mais
parce
oui,
que,
vous êtes trop laxiste, enfin, il faut un général dans chaque classe.
On sent quand même le fond quand même politique du monsieur qui filme. Je ne sais pas pourquoi, mais on le sent.
Ah, on le sent bien, ouais. Voilà. On le sent très très bien. Et oui, alors on peut continuer parce qu'il y a d'autres images qui sont sorties. Alors là, effectivement, alors là on a parlé des lycéens. Là, c'est plus le cas d'une personne qui était sur un barrage ou sur un rond-point plutôt, on va dire, avec les gilets jaunes en tout cas.
À Saillant.
Ah, c'est ça. Ouais. Et donc, oui, on peut donc parler de cette personne hein, en fauteuil roulant, virée d'un rond-point par quelques gros bras bien équipés et qui finit au sol, poussé par les gendarmes sous les prétextes qu'ils les auraient insultés.
Nouvelle version ce soir, breaking news, ah. Ils affirment qu'il y avait une matraque.
Ah voilà. Oui.
Donc un homme en fauteuil face à des gendarmes suréquipés avec une matraque, c'est dangereux, sachez-le.
Ah bah je pense qu'il faut bien l'humilier, le mettre par terre. Hein.
Non mais comme la vidéo tourne, il fallait qu'il trouve une raison.
Bien
c'est
sûr.
Un peu le truc, il faut que je trouve quelque chose là.
On voit la vidéo jusqu'à ce que des amis de cette personne, ou en tout cas des connaissances, le soulèvent, le remettent sur son fauteuil. Et assis sur son fauteuil, en fait, ils se rendent compte que en fait, son pneu est défoncé. Donc en fait, ils ont juste, au-delà de l'humiliation, ils ont déjà humilié quelqu'un. Et en plus... Ben ils l'ont, j'allais dire le mot paralysé, mais en fait, ils l'ont empêché de bouger, quoi. Donc voilà, hein, tout ça, c'est toujours cette affirmation, hein. Il faut affirmer son autorité étatique.
Alors pour l'affirmer, il y a aussi une bonne méthode, hein, c'est de mutiler, tuer, violenter, évidemment, parce que ça, ça marche toujours, ça fait peur. Alors on va juste rappeler quand même qu'on nous parle souvent des blessés du côté des forces de l'ordre. Je tiens à rappeler que M. Castaner, ministre actuellement, refuse de donner le niveau des blessures. Parce que je vous rappelle que dans la police, il suffit que vous vous tordiez un doigt pour que vous soyez noté comme blessé. Donc effectivement, vous pouvez rapidement avoir un nombre de blessés dans les forces de l'ordre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de blessés graves, c'est pas mon propos. J'ai juste que j'aimerais bien que le ministre nous dise ce qu'il y a. Parce que moi, par contre, je peux lui dire ce qu'il y a en face. Alors, on a eu des mains arrachées, on a eu des flashballs en pleine tête, on a eu des yeux qui ont été. Des gens qui ont perdu un œil. On a eu des blessures graves et diverses, c'est-à-dire des entailles, des plaies ouvertes, des choses comme ça, suite à des coups de matraque ou de tonfa. On a même eu un lycéen, je vous rappelle, qui a quand même passé deux petites journées dans le coma après avoir reçu malencontreusement soit un coup de flashball, soit un coup de tonfa. Bon, ils savent pas trop. Mais en tout cas, il a passé deux jours dans le coma. Voilà. Et on va se rappeler aujourd'hui que c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est une méthode qui est généralement acceptée, c'est-à-dire que quand ça se produit sur des petits groupes, on nous dit, ah bah oui, là c'est normal, genre hein, les zadistes, au hasard.
Par exemple.
Là, les zadistes, c'est normal. Faut les taper, c'est les zadistes. Voilà. Les casseurs aussi.
Oui, il y a les casseurs aussi, voilà. Et puis les jeunes de banlieue.
Et les jeunes de banlieue. Voilà.
Là, vous avez... On a les gros ensembles qui méritent, selon les définitions de ces mêmes personnes, que on puisse perdre une main, qu'on puisse être amputé, perdre un œil, une partie de son visage, sans problème.
Vous avez qu'à être sage. Et, mais voilà, mais en fait, l'idée, elle est là, et on voit quand même là, pour une fois, malheureusement, parce que je ne vais pas me réjouir que des gens soient blessés, ça touche de nouvelles personnes, des gens qui n'étaient pas dans ces groupes jusqu'à maintenant. Et donc, du coup, ça devient plus visible, parce que oui, ces gens ne se comprennent pas. L'État est là pour les protéger parce qu'ils croient encore pour beaucoup en l'État. Et donc ils se disent, mais attendez, il y a quand même des gens qui... voilà. Mais ça ne s'arrête pas aux mutilations. Hein. Ah non, c'est toi normalement là.
D'accord. et oui, évidemment, c'est à cause de qui tout ça que ça se passe, hein ? Elle est due à qui ? Eh ben aux casseurs qu'ils ont dit, aux casseurs ! Les casseurs, cette entité... qu'on ne sait pas qui ils sont, mais, mais c'est une entité dont il faut avoir peur, oui. La France a peur.
C'est ça, on dirait René Chiquel.
Oui,
je n'ai pas connu quand même, je ne suis pas vu à ce point-là.
mais c'est exactement ça en fait. Et paradoxalement, quand on voit que malgré la faible mobilisation, on est à peu près à 300 000 personnes en France.
Chiffre annoncé par les Gilets jaunes et la marche pour le climat ce samedi. Hein,
oui. Ça. Ouais. Et finalement, là, l'État ouvre ses oreilles. Et on peut se demander si finalement, c'est pas lié à la casse, au feu, tout ça.
Bah, clairement, on voit bien qu'en fait, à partir du moment où il y a des choses visibles, finalement, efficaces, finalement, là, on nous écoute.
C'est ça.
Voilà. Vous êtes 5 millions contre la loi travail dans la rue, personne ne vous écoute et tout le monde s'en fout. Vous brûlez deux portes.
T'as dit combien de millions là ?
J'ai dit 5, mais j'étais super optimiste.
Oui, là, c'est...
On va dire 1. Je sais pas pourquoi je suis parti sur 5.
Attention à ne pas tomber dans l'excès inverse.
Non, mais alors, c'est dans ma tête, c'était 1, mais je sais pas pourquoi. Mais même moi, je suis dit en le disant, c'est bizarre. Personne ne vous écoute. Par contre, bah, vous brûlez une Porsche, généralement, on a tendance à vous dire, tiens, il fait des trucs qui ne sont pas bien.
C'est voilà. Ça, parce que, quand même, on va le rappeler quand même, ici, en tout cas, dans le studio, il n'y a personne qui est fanatique de la violence. C'est-à-dire à se dire, ouais, la violence, c'est trop méga super cool, on a envie de taper tout le monde. Absolument pas. C'est juste, en fait, si vous pratiquez les manifs, si vous êtes un peu dans le mouvement social, où vous soyez, c'est pas le propos. Enfin, vous vous rendez bien compte, en fait, qu'il y a une réalité. C'est celle de... À partir du moment où on devient violent et dangereux, en tout cas aux yeux de l'État, c'est là qu'il va commencer à vous prendre au sérieux et se dire « Tiens, peut-être qu'il faudrait que je les écoute. » Et je pense que c'est à dénoncer finalement, parce que c'est évidemment, je veux dire, cette violence et finalement cet État qui commence à se dire « Bah tiens, on va peut-être écouter ce qu'ils nous disent. » Ça a coûté des mutilés, des enfermés, des comparutions immédiates. Donc, je pense que dans le mouvement social, on y gagne. Enfin, on n'y gagne pas, quoi. Il n'y a pas une envie au départ de se dire on va tout péter. C'est juste la réalité.
Puis il ne faut pas oublier que c'est aussi souvent une réaction à la façon dont l'État gère les choses.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez, moi je vous invite, si vous avez déjà été en manif, j'espère, je pense, si vous vous retrouvez un jour nassé, enfermé par des policiers, vous verrez qu'assez rapidement, ils vont vous humilier, ils vont se foutre de votre gueule, ils vont vous matraquer des gens par hasard, ils vont soulever des jeunes filles par les cheveux quand ils sont simplement assis sur une place, hein, comme ça, on a pu le voir régulièrement. Voilà, ça va être une des méthodes en fait pour pousser les gens à bout. Et oui, ça, le truc qui sort de vous à ce moment-là, je vous assure, c'est pas les bisounours, c'est pas les bisous. Non, c'est juste l'envie d'aller taper le mec, parce qu'à un moment donné, vous vous dites, mais c'est pas normal. Et donc, en fait, il y a une rage, une colère qui s'exprime en vous. Et ça, même si vous êtes un moine bonze, vous faites... Voilà.
Attention, là, tu vas peut-être loin.
Non, mais je pense qu'il faut imaginer ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné... Quand vous êtes confronté en fait à une violence d'État illégitime. Et qu'elle est en plus faite par des gens qui prennent du plaisir, parce qu'il faut arrêter de se mentir.
Mais il y a la jouissance du pouvoir.
Eh ben, il y a un moment donné où oui, la réponse qui est en face. Alors si vous vous demandez qui sont les casseurs, ben en fait, regardez-vous dans une glace quand vous allez à une manif et dites-vous potentiellement, vous serez peut-être dans les gens qui ont envie de prendre un pavé pour mettre dans la gueule du mec qui vient de vous gazer pour la 5e fois de la matinée, juste parce que ça lui fait plaisir de le faire. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, il faut juste vous mettre à ce positionnement-là. Alors bien sûr, on me dira, tous les policiers ne sont pas comme ça, évidemment, mais moi, il y a un moment donné, j'aimerais que la majorité ne soit pas comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, je vais leur dédier la chanson qui vient.
Allons-y.
Pour nous forcer quand nous n'avions pour nous que nos poings le bon droit et puis quelques cailloux.
D'abord on s'avançait en frappant dans les mains. Il y en avait parmi eux des vraies têtes de gamins. Les regards s'affrontaient face à face de tout près. Eux devaient la boucler, nous pas être chanter.
Allez les gars, combien vous paye, combien vous paye pour faire ça. Allez les gars, combien vous paye, combien vous paye pour faire ça.
Combien ça vaut de te faire détester ainsi par tous ces gens que tu connais pas, qui sans ça n'auraient rien contre toi.
Tu sais, nous on n'est pas méchants, on ne grenade pas les enfants, on nous attaque, on se défend. Désolé si c'est toi qui prends.
Allez les gars, combien vous paye, combien vous paye.
Des gens pour faire des heures, t'aurais mieux fait de rester chômeur.
Allez les gars, combien vous paye, combien vous paye pour faire ça. Allez les gars, combien vous paye, combien vous paye pour faire ça.
Je lui ai fait quelques illusions sur la portée de cette chanson. Je sais que tu vas pas hésiter, comme deviner
Et de retour dans la causerie au 102.2 ou sur radiocanu.org. Et oui, combien on vous paye les gars pour faire ça sans déconner? Une petite chanson à destination de nos amis les tapeurs. Voilà, policiers ou autres. Et donc c'était Zuluxbeck, pardon, Band, qui interprétait ça. Et c'était vachement bien cette reprise d'une vieille chanson en mode un petit peu youpi, la tralala.
Ah mais voilà. Elle date de... il y a longtemps?
Ah non, ça c'est Laura Bonne, la chanson elle date de 68 et okay. En fait voilà, et donc en fait là elle est reprise en 2016 par le groupe Zuluxbeck. Voilà.
Ok, eh bien on va continuer dans cette causerie spéciale mouvements sociaux, violences policières, mais pas que, parce que ce serait un peu trop simple.
C'est vrai.
Donc dans cette première partie, on vous a parlé du mouvement social vraiment, des diverses choses qui sont passées, les mutilés, les blessés, les humiliés, tout ça. Donc là en fait, on voulait essayer sur la deuxième partie d'essayer de... d'étendre un peu la réflexion autour du rôle de la police, du rôle de la police dans l'État, avec l'État, au service de l'État, enfin bon, tout ça. Parce que, évidemment, il est quand même à noter que les violences d'État et de la police ne datent évidemment pas d'aujourd'hui, pas plus d'avant-hier dans les ZAD. Et enfin non, c'est bien plus ancien en fait. On peut se rappeler, par exemple, de la mort de Malik Houssekine, c'était à... la date anniversaire était il n'y a pas si longtemps, qui nous rappelle que si tu n'as pas la bonne tête, tu peux mourir facilement quand même en rentrant chez toi. La variante du moment, c'est aussi si tu as 80 ans et que tu fermes tes volets parce que c'est le why dehors et que tu veux te protéger, tu peux mourir en fait en prenant une grenade lacrymogène en pleine tête. C'est ce qui s'est passé à Marseille, si je ne me trompe
tout
pas.
À fait.
Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il faut aussi regarder dans le passé, c'est pas quelque chose qui est maintenant là qui tombe du ciel parce que c'est Macron. Là aussi il faudrait, il faudrait pas simplifier la situation à c'est tout la faute à Macron. Non, justement c'est pour ça qu'on veut essayer d'élargir l'État.
Et j'irais aussi au-delà de ça, c'est qu'il faudrait aussi qu'on fasse, nous, attention aux militants, à ne pas s'habituer à ce qu'il y ait des morts. Parce que moi, je tiens à dire quand même que justement, quand il y a eu Malik Houssekine, ça a été une déferlante et on a dit non, c'est pas normal, on ne doit pas mourir, c'est inadmissible. Il y a eu beaucoup de réactions. Et en fait, là, il y a des morts dans différents mouvements sociaux. Alors, aussi bien, je dirais, dans les Gilets jaunes qu'il y a aujourd'hui, avec toutes les pincettes que je mets à mouvement social et Gilets jaunes dans la même phrase. Mais il y a aussi ça sur les ZAD, il y a eu. Voilà. Et en fait, on a tendance à s'habituer, c'est-à-dire qu'on dit finalement, mais c'est la preuve qu'en fait on nous habitue aussi à ce qu'il y ait des morts, et ça c'est dangereux de s'habituer aux morts.
Voilà. Oui, mais c'est toujours pareil parce que derrière ils arrivent à justifier absolument toute personne qui sera morte dans les bras ou sous les coups plutôt des forces en fait de sécurité en fait.
Alors moi je vais rappeler quand même que le rôle de la police et de l'armée, parce qu'on va rappeler quand même que les gendarmes c'est l'armée, on va peut-être arrêter, parce que quand on nous dit attention on va déployer l'armée dans Paris, c'est déjà fait, je vous rassure, la gendarmerie mobile c'est l'armée, vous inquiétez pas, elle est déjà déployée dans Paris, elle a même des blindés très très chers qui poussent des poubelles en feu pour montrer et faire des belles images sur BFM, donc vous inquiétez pas, tout va bien, ils sont là. Donc en fait, de notre point de vue un peu anarchisant quand même, disons-le.
Je ne sais pas si le un petit peu est nécessaire.
C'était le côté ironique de ma soirée. C'est de maintenir l'État coûte que coûte. Et donc en fait, les privilèges de quelques-uns, et notamment des plus riches, au détriment du plus grand nombre. Ça, c'est le rôle premier de la police, en réalité, dans tout système étatique, qu'il soit d'ailleurs capitaliste, communiste, tout ce que vous voulez. À partir du moment où il y a un État, l'État a une police pour le protéger. C'est le but de la police, donc voilà, il faut le rappeler, il faut le marteler. Voilà. Et je vous inviterai d'ailleurs à aller lire, elle est en ligne, l'encyclopédie anarchiste, et aller lire l'État. Je vous rappelle que l'État est une chimère, n'existe pas, et n'existe que parce que nous lui donnons corps et vie, sinon ça n'existe pas l'État, ça ne naît pas sur les arbres. Donc voilà, c'est juste, il faut se rappeler de ça.
Oui, une très belle définition qui ramène finalement l'État au même niveau que les croyances telles que Dieu, etc.
Donc on va quand même rappeler quand même que c'est pas nouveau, parce qu'on va reprendre l'exemple de la Commune de Paris. Oui, on vous ramène loin dans le passé, mais c'est pour montrer que la répression, au sens répression policière et militaire, elle a toujours existé en France et qu'elle existe depuis des centaines d'années. Donc la Commune de Paris, on avait quand même des gens qui ont essayé de vivre en dehors des carcans de l'État et qui ont donc été fusillés par milliers pour avoir osé défier l'ordre établi. Donc je vous laisse juste réfléchir au fait que quand vous êtes dans une manif, si vous espérez juste que l'État soit juste, non, il n'est pas là pour ça, il est là pour se protéger. L'oubliez jamais, quoi.
C'est voilà. Ça. Et en parlant de désobéissance finalement face à l'État, On peut aussi se souvenir, on en a parlé aussi déjà dans la causerie, on peut se souvenir des fusillés pour l'exemple, hein, durant les guerres, des massacres aussi le jour de la libération de 45 en Algérie, Sétif, ouais. Ça a été un massacre, du bagne qui a duré des siècles, etc. etc.
Donc, et toujours au nom de la protection de l'État, de l'intégrité de l'État, c'est ça qu'il faut rappeler.
C'est exactement ça, l'idée un peu qu'on a ce soir, c'est vraiment ça, c'est justement de démontrer que l'État est une des, elle fait, enfin l'État fait partie du problème en fait. Donc c'est voilà, c'est il y a de la continuité en fait dans toutes ces choses là. C'est pas là spécifique à Macron, c'est pas spécifique hier à Sarkozy, etc. Bien évidemment chacun.
On dit toujours François Hollande qui n'a servi à rien pendant 5 ans.
Non, je vais pas dire ça non plus parce que
je plaisante.
On sait bien qu'elle a été aussi ses mauvais coups. Donc c'est vraiment ça en fait. L'idée c'est que voilà, c'est toutes ces choses là, on sent une continuité, sont une constante. Et que l'État, voilà, a besoin de ses gardes.
Finalement. Et d'ailleurs, on voit quand on dit que la police sert à protéger les plus riches, quand les anards disent ça, ou même alors quand certains mouvements de gauche disent oui. ça, on nous dit « Ah non, mais attendez, vous abusez, vous n'avez pas de preuve de ça, vous ne pouvez pas dire ça. » Alors moi, j'en ai une de preuve qui est toute bête, hein, c'est « N'avez-vous jamais vu de policiers, de gendarmes, de CRS, même parfois de trucs privés, mais là, ça rentre dans le privé, donc ce n'est pas grave, mais de trucs publics, donc c'est-à-dire gendarmes, CRS, police municipale, se pointer sur un piquet de grève devant une entreprise et virer le piquet de grève à coup de bombes lacrymo, de tonfa, d'arrestation, de choses comme ça. Mais attendez, c'est l'ordre public qu'ils sont censés garder. Mmh. Donc que je sache si M. Renault il peut pas faire ses voitures, c'est pas le problème de l'ordre public. Donc pourquoi d'un seul coup là les policiers interviennent? Eh bien tout simplement parce qu'il y a une sorte de tacite acceptation de l'idée que l'État est là aussi pour maintenir l'économie en route et donc d'être du côté du patronat. Voilà.
Mais c'est exactement cela.
Ben oui.
Mais en plus, tout ça, il ne faudrait pas non plus croire que c'est spécifique à la France.
Mais si, voyons, la France est unique.
Mais non, parce que partout dans le monde, en fait, l'État, son existence même, en fait, est de protéger les bourgeois et les oligarques, les autocrates. Et c'est vraiment son premier rôle, en fait. Donc, il est facile de ne voir que les États, finalement, autoritaires, sans finalement... beaucoup de finalement, sans voir que même dans les démocraties, les largesses laissées à la police sont immenses pour casser les aspirations à plus de liberté, en fait.
Bah, on va donner rien que l'exemple de ce week-end. Quoi qu'on pense du mouvement qui était là, il y a quand même des choses qui, moi, m'ont particulièrement choqué. C'est-à-dire que le fait qu'on puisse, en amont, arrêter des gens et dire « Je vous ai fouillé, j'ai trouvé n'importe quoi. » En plus, vous prenez la liste de ce qui a été trouvé. Alors, ok, quand on trouve des boules de pétanque, on peut se dire « C'est problématique. » Ok.
À moins que tu aies un tournoi de pétanque.
Mais... Par contre, il y a des gens qui ont été arrêtés, par exemple, parce que sur eux, ils avaient un couteau suisse. Vous voyez, le truc qu'on a dans la poche, voilà. Et ils ont été arrêtés parce qu'ils étaient censés, d'après les policiers, être là pour faire un groupuscule en vue de... Vous voyez, c'est toujours ce truc... Mais sauf qu'à un moment donné, ça, c'est une largesse énorme qui est donnée à la police. C'est-à-dire que d'un coup, ils se transforment en videurs de boîte de nuit. T'y vas pas, quoi. Mais sauf que c'est pas leur rôle. Et surtout, c'est hyper grave. C'est-à-dire qu'on arrête les gens en amont. C'est du pré-crime, quoi. C'est-à-dire, avant que quoi que ce soit ne soit commis, ah, toi, je vais t'arrêter.
Vous voyez,
c'est quand même super grave. Et ça, en fait, ça passe comme une lettre à la poste. Et je vous rappelle, hein, 2000 arrestations ce week-end. 2000, c'est un record absolu en France. Il n'y a jamais eu autant d'arrestations sur une journée. C'est juste phénoménal. Et on est là à se dire, c'est normal. Ben non, non, c'est pas normal. On ne peut pas avoir 2000 arrestations, dont plus de la moitié de ces arrestations sont dites préventives. Mmh. C'est n'importe quoi. Mmh. Ben, je veux dire, c'est glisser doucement vers une policisation de l'État, c'est-à-dire un État policier, je vais dire le mot, où on dit bah, la police a des droits qui sont au-dessus des lois de base, qui sont celles des citoyens du pays en question, le nôtre, la France, qui a le droit de se déplacer. Et c'est comme ça que ça commence partout. Hein. Si vous regardez partout dans le monde, ça a commencé comme ça au Brésil, ça a commencé comme ça en Russie, ça a commencé comme ça chez Viktor Orban. À chaque fois, en fait, ça commence par on donne plus de poids et de pouvoir à la police. Bah, de toute façon, voilà. On sait où ça mène, quoi.
Bah, j'ai presque envie de dire, même si ça devait, même si ça devait ne pas mener à la Russie ou autre,
C'est déjà inadmissible.
C'est ça, exactement. En fait. C'est que même si on s'arrête à ça, en fait, ce n'est déjà pas bon. Donc voilà. Et qu'en même temps, on se disait qu'il serait donc un petit peu vain d'imaginer que d'eux-mêmes, des gens qui ont décidé de servir l'État et de pratiquer la répression, poseront gentiment leur bouclier, leur casque, leur flingue, leur tonfa, leur tout ce que vous voulez, en masse, parce qu'on serait gentil avec eux.
Oui, c'est ça, c'est qu'il y a une sorte d'illusion dans tout ça, en fait. C'est de croire que ce sont des gens qui n'auraient pas choisi leur métier. La plupart ont choisi, et on ne devient pas CRS par hasard, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on choisit, on fait une carrière, on va suivre des écoles. C'est ça, quoi. On n'arrive pas à CRS par hasard. C'est-à-dire que voilà. Après, il peut y avoir une contrainte sociale, mais ce n'est pas la majorité.
Alors, je ne vais pas dire que c'est la majorité.
Ça arrive aussi.
Mais je ne vais pas oublier non plus que la chair à canon, on l'a fait aussi dans les quartiers où il y a de la misère, etc.
Oui, tout à fait.
Parce que quand tu n'as plus rien, quand tu n'as pas grand-chose, eh ben, ça te fera toujours ça à bouffer, en fait. Mais pour autant, effectivement, ce n'est pas non plus une généralisation à faire dans l'autre sens. C'est-à-dire que tous ne viennent pas de là non plus.
Et ce n'est pas non plus une excuse.
Non plus.
Parce que je veux dire, il y a un moment donné, je rappellerai juste que l'armée n'a pas le droit de se syndiquer, les CRS, oui. L'armée n'a pas le droit de faire grève, les CRS, oui. Donc si les CRS étaient d'accord avec vous, au lieu de vous taper dessus, ils feraient grève. Vous voyez, c'est un peu, il faut être très clair. Ok, je ne parle pas des gendarmes mobiles, ils n'ont pas le droit. Mais les CRS ont le droit. Donc à un moment donné, il va falloir se poser des questions.
C'est ça.
Voilà.
Et qu'on pense que c'est le rapport de force en fait, qui fera plier la police. Et encore, le temps qu'elle trouve un nouveau maître à servir.
C'est toujours le problème.
Donc voilà, donc le truc, c'est que on essaie juste un peu d'amener de quoi nourrir vos réflexions.
Bah oui, et d'ailleurs, si vous avez le temps et que vous avez envie de nourrir vos réflexions avec des bouquins, vous pouvez lire tout un tas de bouquins écrits par des vilains anarchistes sur l'État, parce qu'on est quand même le courant qui a écrit le plus de trucs sur l'État, c'est un peu logique. Et vous rappelez juste quand même à un moment donné, je le redis, l'État est une fiction. Voilà. Il n'existe que parce qu'on veut qu'il l'existe. Il y a une bureaucratie, c'est pas la même chose que l'État. Voilà.
Eh bien, on va faire une coupure musicale,
ah
ça
bon
vous dit ?
Ah ouais.
Ouais, elle sera assez courte, mais elle sera pas mal agitée. Allons-y. Ouais. Et vous êtes de retour dans la causerie, toujours à l'écoute de Radio Canu, donc au 102.2 et sur radiocanu.org partout ailleurs. Et on vient de s'écouter le premier extrait du prochain album de Altarba et Senbei avec le titre More Pressure. Je sais pas pour vous, mais moi ce premier titre me met en joie et j'ai hâte d'écouter la suite de l'album.
Et le 102.2, c'est sur Lyon.
Bien sûr. Région. Ah oui, pardon, j'ai oublié de le dire. C'est important, effectivement.
Oui, parce que les gens, ils vont chercher un peu partout et ils vont pas nous trouver. C'est dommage.
Si t'es à Lille et que tu mets le 102.2, t'auras pas la Radio Canu. T'auras chose, même pas nous. Eh bien, on est toujours dans cette causerie, on va pas dire anti-autoritaire, mais autour en tout cas des mouvements sociaux, de la critique aussi de la police et de l'État.
De leur rôle aussi, quoi, et en fait du fait qu'ils ont une pression assez énorme sur nos vies, il faut quand même pas non plus le nier. Donc voilà. Donc du coup, moi je voulais revenir un petit peu aujourd'hui, là pour une troisième partie, sur ce qui se passe aujourd'hui un peu partout. Alors on voit qu'il y a des modes de lutte traditionnels qui continuent à exister, hein. Il y a des gens qui s'organisent avec leurs syndicats, qui vont faire des manifs, qui bloquent des rues. Alors, c'est le cas des ambulanciers, par exemple.
Il y a eu les profs aussi.
Il y a eu les profs. Il y a eu aussi les routiers qui ont déposé un préavis de grève et qui ont obtenu satisfaction très vite du fait du climat actuel. Et je pense que tout le monde s'est dit, on va peut-être pas rajouter les routiers là, parce qu'on va pas y arriver. Donc voilà, mais on voit que en fait, il y a encore des modes de lutte traditionnels, enfin qu'on a l'habitude de voir, et c'est pas péjoratif dans ma bouche. On a aussi des modes de lutte qui sont devenus traditionnels, qui réapparaissent, hein, ce qu'on appelle les casseurs ou le fait d'aller casser des symboles du capitalisme, c'est pas nouveau, ça s'est toujours fait. Donc c'est pas non plus d'un seul coup les gens disent ah c'est nouveau, il y a des casseurs. Non, en fait voilà, si vous êtes un petit peu sorti de chez vous de temps en temps, vous verrez que ça existe toujours dans les mouvements sociaux et que c'est pas forcément négatif, parce que tout le monde en France se masturbe sur mai 68, mais tout le monde oublie que mai 68 c'était que des casseurs, hein, dans les rues, hein, si on prend les définitions d'aujourd'hui, et que ça s'est barricadé et que ça a canardé et que voilà. Donc ça me fait toujours sourire de voir les gens dire ah là là, il faudrait un nouveau mai 68, et dès qu'il y a un pot de fleurs qui brûle, dire ah il y a un pot de fleurs qui brûle. Il va falloir choisir, en fait, à un moment donné, on peut pas avoir l'un sans l'autre, hein. Donc voilà. Malheureusement, parce que j'aimerais, hein, que voilà. Alors je vais vous donner un conseil, vous qui êtes de l'autre côté du poste, si vous voulez qu'il y ait moins de casseurs, soyez des millions dans la rue. Parce que plus on est, moins il y a besoin de casser, c'est toujours le même problème. Donc voilà. Et donc je vais quand même venir sur les fameux gilets jaunes dont on parle beaucoup. Alors dans la causerie, on a décidé de pas non plus vous en parler 3 heures, surtout que ça a déjà été fait, voilà. et ici aussi, hein, enfin on en a parlé.
Oui, on en a parlé.
Non, en fait moi ce que je notais, c'est les choses qui, pour nous qui sommes de tendance anar, nous posent quelques problèmes en fait de compréhension, et ce qui fait que on est un petit peu dubitatif à se dire merde, alors qu'est-ce qu'on fait avec ce truc là voilà. Et ce sans prendre les gens de haut, mais juste plutôt en prenant notre position, en se disant ah mince, là je suis un peu embêté. Alors le premier truc par exemple, c'est que pour les anars, il y a un truc pas mal chez les gilets jaunes, et il faut le dire, c'est que c'est plutôt fédéraliste, c'est-à-dire que ça part de là, du bas vers le haut, et surtout c'est chaque groupe est autonome par rapport au groupe d'à côté, mais ils travaillent ensemble, c'est-à-dire c'est le principe du fédéralisme. Vous lisez ce qu'est le fédéralisme, c'est ça. C'est-à-dire chaque groupe a son autonomie d'action, mais ils ont un but commun, ils travaillent ensemble. Donc déjà ça nous interpelle. On a aussi la notion, donc je disais, du bas vers le haut, et du fait que les revendications viennent du terrain. C'est-à-dire c'est les problématiques des gens qui sont remontées. Alors elles sont remontées parfois par des courants d'extrême droite, des fois par des courants d'extrême gauche, des fois par des gens qui n'ont jamais fait de politique de leur vie. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que y a ce côté-là qui pour nous parle plutôt, c'est-à-dire partir des besoins des gens pour aller vers comment on satisfait les besoins. Et ça, pour des anars, on est un petit peu à se dire, ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on aimerait. Vous voyez sur le truc. Mais on va noter quand même qu'il y a des choses un petit peu différentes ou un petit peu positives aussi. Alors on va aller encore sur du positif avec Jean-Yves là. Allons-y.
Oui, le positif qu'on peut encore noter, c'est qu'il y a quand même beaucoup de manifestants qui semblent de plus en plus hermétiques quand même aux fables politiques et à l'envie de certains de se positionner comme chef. Là encore, c'est pas nous qui avons par exemple organisé une émission contre le vote ou des choses comme ça, contre le système représentatif, qui allons vous dire c'est de la merde ce qu'ils font. Non, ça c'est plutôt très intéressant, ce refus de gens qui vont s'auto-désigner, etc. Et il y a aussi une défiance réelle quand même vers les politiques. Après, encore une fois, attention, pas de grands ensembles, ni dans un sens ni dans l'autre. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est que des anarchistes qui s'ignorent, mais je ne suis pas non plus en train de vous dire que ce sont tous des fascistes qui s'ignorent. Parce que je pense que les choses sont plus compliquées, et surtout, encore une fois, avec les retours qu'on peut avoir, etc., ben c'est très différent selon les endroits. Quoi.
Est-ce que vous êtes en ville, à la campagne?
Je pense que ça change beaucoup. Et même à la campagne, c'est ça.
Dans quel rond-point vous êtes, c'est pas la même chose. Ouais.
Donc c'est bien plus compliqué. Mais effectivement, ça fait partie des points qui sont intéressants quand même dans ce mouvement.
Alors, après. Alors voilà, on va quand même pas non plus faire comme si c'était faux, parce qu'ils se disent souvent hermétiques à la politique, mais ils sont quand même assez perméables à certaines thèses homophobes, populistes, réactionnaires, qui circulent sur Internet. Parce que le problème de ce moment, c'est qu'il est né sur les réseaux sociaux, et les réseaux sociaux, on le sait, c'est pas l'endroit où il faut vraiment s'informer. Non, je vous le rappelle, les réseaux sociaux, c'est l'endroit où il y a quand même beaucoup, beaucoup de merde qui circule. Hein. Les réseaux sociaux commerciaux, d'ailleurs, comme dirait Delphine du Canu Info du jeudi. Voilà. Mais on le voit, oui, ils existent. Et il ne va pas falloir dire ça n'existe pas, ils sont tous merveilleux. Moi, je lis des textes aujourd'hui qui me font mourir de rire. Il y a des gens qui ont l'impression d'être à la veille d'une révolution, du calme.
À la veille du grand soir, peut-être.
Du grand soir, je sais pas. Moi, je ne crois pas au grand soir.
Moi non plus, mais justement.
Qui évolue. Et là, en fait, oui, il ne faut pas non plus taire ça. Parce que si vous taisez ça et vous dites on verra après la révolution, vous risquez juste d'aller du mauvais côté. On va en parler après. D'ailleurs, voilà. D'ailleurs, enfin, on peut le dire, c'est un mouvement complexe. C'est un mouvement au contour plutôt flou et en fait c'est pas un mouvement révolutionnaire au sens premier du terme, parce que on va rappeler, c'est qu'un mouvement révolutionnaire, et c'est pas pour jouer les orthodoxes de la révolution, c'est pas du tout mon propos, mais on sait qu'un mouvement révolutionnaire il agrège sur des idées de base, et c'est des idées fortes. Alors on est peut-être dans un mouvement pré-révolutionnaire, on est peut-être sur ce qui va faire émerger une révolution, l'envie de changer. Mais pour nous, c'est d'abord, pour l'instant, un mouvement de colère forte et de colère exprimée et de désœuvrement, parce que des gens, on le voit, on parle avec eux, on les voit en interview, on a des retours de copains et de copines qui les côtoient. Y a un désœuvrement, il y a un vrai mal-être, il y a un vrai mal-vivre chez beaucoup de gens. Et ça, en fait, c'est un peu la carpe et le lapin, quoi. C'est-à-dire c'est des intérêts très divergents qui, pour l'instant, restent sur cette position de gilet jaune un petit peu, voilà. Et qui peut basculer d'un côté ou de l'autre, ça j'en sais rien. Mais Jean-Yves en avait déjà parlé dans la 276e causerie le 25 novembre 2018. Alors je vous inviterai à aller réécouter sa chronique, sinon je vais être obligé de la refaire et je la ferai moins bien.
Oh, qu'est-ce qu'il est gentil. Merci. Mais du coup, on peut se dire comment transformer la colère en révolution et comment éviter un scénario à la brésilienne. Parce que, pour mémoire, c'est le coup de la vie qui, au Brésil, a lancé des mouvements de colère assez proches de ce qu'on vit ici avec les Gilets jaunes.
Oh, il y avait blocage des rues, il y avait gratuité des transports, oui, par arrachage des barrières. Donc on était un peu vraiment sur la même façon de faire. Quoi.
Oui, c'est ça. Et là, encore une fois, je le rappelle, à l'époque, on avait reçu Adriano, un compagnon anarchiste brésilien, qui nous avait expliqué. C'était parti du prix du ticket, quoi. Ouais. Là aussi, on peut se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi ? C'est pas grand-chose. Eh ben, quand même, c'est parlant de quelque chose. Et finalement, et malheureusement plutôt, au Brésil, ben, des années après, ça se transforme sous l'extrême droite qui arrive au pouvoir et qui arrive de manière assez facile. Donc voilà, faudrait pas non plus totalement ignorer effectivement l'attrait pour les extrêmes droites, parce qu'on va être large.
Surtout pour les populistes, en fait, pour des gens qui vont avoir une espèce de solution miracle proposée, présentée comme ça en criant très fort. Parce que c'est toujours... Il y a un truc en ce moment qui m'agace, c'est tous les gens qui disent il faudrait qu'on ait un référendum, vous savez. Ouais. Alors on fait un référendum et ça oblige l'Assemblée à parler du truc dont on a voté, machin. Ça existe déjà, ça s'appelle la Suisse, quoi. Et je veux dire, à un moment donné, c'est ni magique ni quoi que ce soit. Il suffit de vous discuter avec des Suisses et vous expliquer que, ouais, alors c'est bien, le référendum d'initiative populaire, c'est cool. Alors après, vous votez sur tout et n'importe quoi, et souvent plus sur n'importe quoi que sur tout. Et surtout, et c'est pas que je suis contre, hein, mais c'est juste qu'il faut se rappeler ce qui se passe. Et puis surtout, ça permet aux plus haineux de faire passer dans la société les pires trucs. Parce que c'est comme ça qu'en Suisse, on se met à voter contre les minarets, vous voyez. Et ça, c'est pas anodin. Parce qu'après, ça nécessite que tout le monde se politise. Sinon, on est dans la merde.
Mais oui, c'est ça. Mais je pense que c'est surtout ça, en fait. C'est-à-dire que si on arrive à une notion fédéraliste, ça veut dire que ça va jouer au plus près de nous. Donc il faut espérer qu'effectivement, au plus près de nous, il y a un maximum de gens qui soient politisés, conscientisés. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu aies une carte de parti ou d'organisation. Tu peux bien être un électron libre, ce n'est pas du tout le problème. On peut penser, même en étant un électron libre, hein, je vous rassure.
Heureusement.
Oui, bien évidemment. Mais effectivement, c'est ça, quoi. Donc, pour revenir sur le Brésil et sur Bolsonaro, pardon, et sur la transformation du mouvement, en tout cas en France, d'un côté de la balance ou de l'autre, eh ben, on est un peu des démunis pour vous pour garantir que finalement ça ira pas dans le sens brésilien, et on n'en a absolument aucune assurance, quoi.
Alors, ça va demander vraisemblablement que ceux et celles qui en ont le courage, l'envie, la conviction ou ce que vous voulez, aillent parler avec les gens qui sont aujourd'hui sur les ronds-points ou avec les gilets jaunes, aillent échanger, diffuser de l'idée. Ça c'est indéniable qu'il va falloir le faire à un moment donné. Le problème, c'est que c'est pas forcément simple à faire, et on en est bien conscient. Si vous arrivez sur un rond-point et que vous avez 90% de membres d'un parti d'extrême droite, ça va être très compliqué de leur dire: on va essayer de ne pas avoir de chef. Tentons le coup, mais ça ne va pas bien marcher.
Non, ça ne marchera pas.
Voilà. Non, mais oui, on le sait. Donc là, on n'est pas en train de faire de l'angélisme en disant que ça va être tout facile. Simplement, il faut aussi éviter un truc que moi je ressens beaucoup, c'est le mépris. Parce que dans ces gens qui s'agglomèrent, qu'ils puissent être dirigés par des salopards, c'est possible. Que certains veuillent récupérer leurs idées pour aller vers plus de populisme, c'est aussi possible. Je ne suis pas en train de le nier, mais c'est sûrement pas en les méprisant encore plus. Je ne parle pas de ceux qu'on connaît, qu'on identifie, qui sont des leaders politiques, et que ceux-là, on sait bien que voilà, il n'y a plus rien à en tirer. Je parle des monsieur et madame tout le monde qui sont à leur première manif, qui sont là parce qu'ils ont 700 euros de retraite par mois, parce qu'ils sont mères célibataires, ou elles sont mères célibataires, pardon, et que du coup, ça devient très compliqué. Parce qu'en fait, elles habitent à la campagne et qu'on leur a enlevé tous les services publics, et qu'à un moment donné, il faut faire 60 bornes pour aller trouver le moindre tribunal quand on a besoin de faire tamponner une feuille. Vous voyez, c'est ces personnes-là. Et ces personnes-là, il ne faut pas les mépriser. Parce que si vous les méprisez, oui, ils iront vers celui qui crie le plus fort. C'est clair. Donc, je le dis à l'antenne, hein, peut-être éviter les mots comme bouseux, comme crétin, comme crétin des Alpes, comme t'as vu à la télé, ils ont même plus de dents. Bah ouais, quand on est pauvre, on a plus de dents. Ouais, j'ai juste envie de vous dire que ça arrive, voilà, en France aussi. Hein. Donc voilà, et c'est juste, je trouve, ce mépris-là, en fait, vous alimentez ce que vous craignez. C'est-à-dire qu'en les méprisant, vous alimentez l'extrême droite. C'est très clair, ça. Mmh. Et moi, je vous le dis, c'est vraiment un cri du cœur, là. Moi, j'ai dit, franchement,
tu fais bien.
Voilà. Voilà.
Tu fais bien, j'aurais tenu le même, et je crois que j'ai tenu le même à peu près la dernière fois que j'avais
parlé. Pardon, j'ai refait ta chronique.
C'est pas... Non, mais c'est pas grave, mais je pense que c'est très important. Et là aussi, il faut pas faire de grands trucs. C'est-à-dire que nous sommes à Lyon, que dans le mouvement qui essaye de se développer au cœur de la ville, l'extrême droite soit forte.
Elle est comme elle est dans la ville, quoi.
C'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'en plus, je pense que ce mouvement, il vient pas des grandes villes, en fait, quoi. Je veux dire, il vient pas de là, en fait. Il vient de l'extérieur, il vient de la campagne, il vient des néo-ruraux, etc. Vous les dénommez bien comme vous voulez.
Il vient aussi des villes qui se vident parce qu'il n'y a plus d'industrie. Ils viennent de villes comme Gandrange, par exemple, vous voyez, où quand on a fermé la scierie, les gens ne se rendent pas compte, mais la scierie qui ferme, c'est 45 000 emplois qui ont été perdus. 45 000, c'est énorme. C'est-à-dire, il y a des emplois directs et indirects. Dans une région, vous perdez 45 000 emplois, bah, alors vous êtes obligé de bouger, vous en allez, donc tout s'effondre. Et donc, c'est ces personnes-là aujourd'hui qui beaucoup gueulent, et on peut pas juste leur répondre t'es un abruti, t'es pas assez politisé, quoi. Voilà,
c'est ça.
Mais moi, je tiens à dire quand même que ce mouvement, il a un avantage quand même, c'est de ramener les gens aux politiques, et ça, c'est plutôt positif. Alors, ils vont pas forcément du bon côté, ça c'est clair, ils s'informent pas forcément au bon endroit, ça c'est clair aussi, mais par contre, au moins, on a une notion où les gens reviennent aux politiques, et peut-être que c'est là qu'on devrait se dire, nous, les mouvements anards d'extrême gauche, tout ça, qu'on a tout bien compris et qu'on est une avant-garde vachement éclairée, qu'en fait, non, mais je dis ça avec ironie, qu'en fait, on a peut-être raté un truc à un moment donné parce que finalement, on n'a pas ramené les gens aux politiques, et que bah, peut-être qu'on n'est pas allé sur ce qui est fait. Le premier problème des gens, c'est pas souvent pas leur identité, c'est souvent pas leur façon d'être, c'est souvent pas la façon dont ils s'habillent, c'est souvent pas la façon dont ils parlent. Non, souvent, en fait, c'est un truc très basico-basique, c'est putain, la fin du mois, elle va être compliquée.
Ben ouais, et voilà. Puis surtout, si vous venez des grandes villes et que vous fréquentez des belles universités, allez pas faire chier les gens avec votre thèse universitaire, en fait. C'est-à-dire que votre propos, vous pouvez l'emmener d'une manière différente.
Bon, là, ça vous oblige
à revoir votre manière d'approcher les gens et de théoriser vos propos. Mais à un moment donné, je repense à un truc parce que je le lis en étant sur les réseaux sociaux des fois. On parle du privilège blanc quand on voit ces personnes, certaines personnes, encore une fois, attention, qui sont finalement juste des pauvres, en fait. Je vois pas quel est leur privilège, en fait, en étant à la campagne, etc. Il est où le privilège, en fait ?
Ils peuvent en avoir d'un certain point de vue sociologique. Par contre, allez leur expliquer ce que ça veut dire. Et pas juste balancer le mot comme ça.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça le truc. C'est réexpliquer un petit peu les notions. Parce que sinon, balancer des grandes phrases, des grands mots comme ça, en fait, vous rendez hermétique votre pensée. En fait.
Mais c'est surtout, je pense aussi qu'il faut revoir les schémas, en fait, qu'on a dans nos propres cerveaux, quoi. C'est-à-dire, quand on est.
Tout le monde n'habite pas en centre-ville.
Bah non, tout le monde n'habite pas en centre-ville.
C'est ça que tu veux
et
dire.
Et même les gens qui vivent en dehors des centres-villes ne sont pas tous des bourgeois. Mmh. Tout le monde n'habite pas Saint-Cyr au Mont-d'Or, par exemple, hein, c'est pas vrai. Donc voilà, il y a une diversité, en fait, dans les choses, et de la complexité. On en revient à ça, mais vraiment, je pense que nous-mêmes, en fait, il faut qu'on soit complexe. Parce que la facilité, c'est ce que...
C'est les grands, c'est les grands mots.
Mais oui,
la facilité, ça vient par
mais
les
oui,
grands
oui.
mots.
Et puis la facilité, moi, je la vois dans la bouche de ceux qui veulent faire de la politique, hein, que ce soit Marine Le Pen ou un Jean-Luc Mélenchon. Des fois, tu as une simplicité des deux côtés où tu te dis, mais... Enfin, non, c'est pas vrai. C'est pas aussi simple les choses, quoi.
C'est pas, ouais, c'est pas,
il faut compliquer.
C'est pas basique. Quoi.
Mais non, c'est pas... Enfin, c'est pas... Oui, oui. Oui, on va couper, c'est vrai. Il est
non,
temps.
Mais je voulais que tu finisses ta phrase. T'as raison.
Non, mais j'ai à peu près fini. On sait qui est le censeur ici. Hein, il n'y a pas de chef à ce qu'on dit.
En plus, c'est Clara qui m'a montré l'horloge.
Ah ben, c'est
même
pas
vrai.
Ah mince, j'ai même pas pu lui renvoyer dessus.
Ça aussi, on le remarque comme ça, la lâcheté des gens. Lâcheté, ouais. C'est souvent ceux qui se retournent vers le premier chef.
C'est comme ça que ça commence.
Allez, on s'écoute un petit titre.
Un vieux titre qui a 50 ans.
Ah oui.
Quand tous les affamés et tous les opprimés entendront tous l'appel, le cri de liberté, toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité. On peut chanter tous les poèmes des sages et on peut parler de l'humilité, mais il faut s'unir pour abolir injustice et pauvreté. Les hommes sont tous pareils, ils ont tous le même soleil. Il faut, mes frères, préparer le jour de clarté. Quand tous les affamés entendront tous l'appel, le cri de liberté, toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité. On peut discuter sous les toits de l'homme, parler de fraternité, mais que les hommes soient jaunes ou blancs ou noirs, ils ont la même destinée. Laissez vos préjugés, rejetez vos vieilles idées, apprenez seulement l'amitié, pour que les affamés et tous les opprimés entendent tous l'appel, les cris de liberté. Les chaînes brisées tomberont pour l'éternité. On ne veut plus parler de toutes vos guerres, et on ne veut plus parler de vos chants d'honneur, et on ne peut plus rester les bras croisés comme de pauvres spectateurs. Dans ce monde divisé, il faut les révolter, qui n'auront pas peur de crier, pour que les affamés les opprimés entendent tous l'appel, le cri de liberté. Toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité.
Et voilà, vous êtes de retour dans la causerie au 102.2 sur Lyon et sa région ou sur radiocanu.org partout ailleurs. Et donc c'était Graham Allwright avec le jour de clarté. Et c'est un vieux chant de 1968. Voilà, comme c'est les 50 ans de mai 68. C'est l'occasion de le caser. Puis j'adore cette chanson. Voilà.
Ouais,
et spéciale dédicace à mon papa et à ma maman. Qui m'ont fait écouter ça quand j'étais gamin.
On se croirait chez...
Au petit bazar.
Ouais, aussi, c'est vrai. Au petit bazar le dimanche sur Radio Canu. Le samedi sur Radio
samedi,
Canu, pardon. Et, ou alors, non, j'hésitais aussi avec l'école des fans.
Ah oui, ça. Aussi. J'ai 10 ou pas? Allez, on passe au bref. Allez, c'est
allez,
parti.
On passe au bref.
Toute la semaine. Oh, pardon.
Non, mais vas-y, fais ton émission tout seul.
Bah, vas-y alors.
Toute la semaine, on rappelle qu'il y a des permanences d'aide aux travailleurs sans papier. C'est à l'Union départementale de la CGT, au 215 cours de Lafayette, dans le 6e arrondissement. Et c'est donc tous les jours de 10h à midi.
Et les permanences à la lutine les lundis, a priori, reprendront début janvier. Ils ont quelques soucis, j'ai bien compris.
Ok.
Pas tout suivi. Mercredi 12 décembre 2018, c'est la projection du film La Bergère des Glaces et un débat en présence de la réalisatrice Christiane Mordelet, qui a tourné le film avec Stanzin Dorjaïga, je pense que ça se prononce comme ça, pardon, cinéaste et frère de la Bergère. Quelque part dans la vallée du... Oh, c'est pratique, ça. Gyamirou, ça se dit comme ça, au
C'est le Ladakh.
Ladakh, ouais. À plus de 5000 mètres d'altitude, vit une bergère entourée de ses 300 moutons et chèvres, Pashima, au milieu d'une immense montagne désertique. Je suis désolé pour les prononciations, c'est juste... voilà. Avec pour seule compagnie son troupeau et la présence inquiétante de loups et d'un léopard des neiges, une petite radio est son seul lien avec le monde. Et c'est mercredi 12 décembre à l'Aquarium. C'est avec la revue Silence, c'est 10 rue Dumont, dans le 4e. Voilà.
C'est marrant de se dire qu'au... tout en haut d'un sommet, c'est ton seul lien, c'est la radio.
Eh ouais. Elle écoute peut-être Radio Ken. Non, elle peut pas là-bas.
Je ne pense pas. On continue. Jeudi 13, c'est le collectif Jamais sans toi, hein, qui poursuit sa mobilisation et qui organise un goûter de Noël solidaire le 13 décembre prochain entre 16h et 18h et 18h devant le groupe scolaire au 16 de la rue Raspail à Villeurbanne.
Voilà, j'ai oublié le groupe scolaire, donc vous trouverez. Vous allez au 16 ou à Spaï, vous allez le trouver. L'atelier du groupe soins aussi sur les brûlures, c'est toujours jeudi 13 décembre à 18h à l'Amicale. Donc voilà, ça va parler des brûlures a priori.
C'est ça, et l'Amicale c'est au 31
rue. Ah oui, 31 rue Sébastien Griff, pardon.
C'est pas grave. Et on continue, il y a l'appartage qui vous convient à une rencontre de fin d'année autour d'un buffet pour discuter de l'hébergement solidaire pour mineurs isolés. C'est le 13 donc, j'ai dit ça, oui, à 19h au château Sans Souci, salle Paul Scherrer, c'est au 36 de l'avenue Lacassagne, dans le 3e. L'appartage vite fait, c'est une asso en fait qui met en lien
des particuliers.
C'est ça, des particuliers qui peuvent héberger un peu sur le long terme. En tout cas, il y a quand même une notion de ne pas être toujours dans l'urgence. Et ces mineurs isolés.
On peut dire d'ailleurs qu'ils auront un reportage cette semaine sur France 3, mais je ne sais pas quel jour. France 3 Rhône-Alpes,
oui,
voilà. Eh bah oui, je fais un peu de pub pour France 3 quand ils font des trucs pas trop mal. Hein, voilà, donc voilà. Samedi 15 décembre à 15h, il y a une rencontre débat à la librairie La Griffe autour de Vivre ma vie, une anarchiste au temps des révolutions. Et oui, c'est donc enfin que la biographie d'Emma Goldman est traduite entièrement en français. Et donc ce sera en présence de Laure Battier qui est la traductrice de l'ouvrage et ça se passera à La Griffe, 5 rue Sébastien Griffe, dans le 7e. Et lisez Emma Goldman, vraiment lisez Emma Goldman. Voilà.
Ouais. Et bien la rencontre, le rendez-vous suivant, c'est une rencontre débat en soutien aux grévistes d'Imider au Maroc. C'est le 15 décembre, donc samedi, à 20h au 169 Grande Rue de la Guillotière. C'est en présence d'Omar Moujane, un militant participant à la mobilisation. Donc c'est dans le 7e arrondissement, métro Garibaldi. Et le dernier rendez-vous,
et ben c'est la semaine prochaine à 22h. Comme vous ne savez pas quoi faire dimanche à 22h, vous allez écouter La Causerie. Et d'autant plus, je le sais, parce que c'est une causerie astronomique avec Georges.
Et voilà. ça intéresse les gens. Ouais. Nous, ils s'en foutent, mais voilà. Georges, quand même.
Tout pareil. Après, il aura des commentaires, lui, tout ça. Oh bon, c'est désespérant. Moi, je vais arrêter de faire cette émission, je pense. Non, je ne veux pas.
Et donc, chose exceptionnelle.
Nous sommes à l'heure.
Nous sommes à l'heure. N'est-ce pas formidable?
Et si ça, c'est pas beau. Mais quand on va continuer à parler, on va être plus à l'heure.
Non, pas du tout.
Mais si, elle rigole, Clara.
Alors, pour savoir toute la petite histoire, un mi-auditeur, un mi-auditrice, Clara, elle a dit non, mais de toute façon, vous venez en retard parce que vous êtes toujours en train de parler. Et en fait, en faisant ce que je suis en train de faire, effectivement, il y a des chances qu'on finisse en retard. Mais non, parce que là, on va dire qu'on va se quitter. Qu'on se retrouve la semaine prochaine
avec Georges, donc
pour avec Georges,
une émission astro.
On vous souhaite bon courage pour la semaine à venir. Et puis on va se quitter avec un titre que je voulais déjà passer dans cette émission, mais je m'étais planté de titre.
Et cette fois, il a le bon CD, tout va bien.
Cette fois, c'est le bon CD, c'est le bon titre, tout ça, tout ça. Donc, c'est un titre interprété par Dominique Grange. Le titre, c'est Fraternité, et ça a été écrit par un autre anarchiste, encore que d'anarchie ce soir, encore. Oh là là. Et bien, ce grand anarchiste, c'était Sébastien Faure, un personnage très intéressant aussi, et un titre que je vous invite vraiment à vous poser, à écouter très, très attentivement. Voilà, pour peut-être qu'on aille mieux, peut-être qu'il faut se passer de frontières, de pays, tout ça. Enfin bref, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, on vous fait des bisous.
Et on est à la bourse des bisous, salut.
Ciao, ciao.
Passer sur leurs têtes altières le souffle précurseur d'une révolution. et les dirigeants l'œil braqué sur les frontières veulent déterminer le choc des nations. Ils espèrent les fous hébétés d'épouvante détourner la fureur menaçant leur pouvoir. Ils espèrent noyer dans une mer sanglante du prolétariat le vengeur des espoirs. Nous, nous voulons, amis, que sur toute la terre règnent avec la paix, justice et liberté. Nous voulons des pays abolir les frontières. Tous les peuples sont faits pour la fraternité. À qui peut profiter le gain d'une bataille? Au roi, au gouvernant, à tous les rançonneurs, à tous les trafiquants d'armes et de mitraille, aux détenteurs du sol, aux bourgeois exploiteurs. Tout lieu pour chasser, la guerre ne lui vaut ni fortune ni gloire. Qui nourrira les siens s'il meurt, s'il est blessé? Nous, nous voulons, amis, que sur toute la terre règne avec la paix, justice et liberté. Nous voulons des pays abolir les frontières. Tous les peuples sont faits pour la fraternité. Que de crimes commis au nom de la patrie, que de larmes de sang, par qui jamais sera suffisamment flétrie cette idole acharnée à bâtir des cercueils. Combattons sans pitié l'esprit de chauvinisme qui jette dans les cœurs des sentiments pervers. Maudit soit à jamais le mot patriotisme. Notre unique patrie à nous, c'est l'univers. Nous, nous voulons, amis, que sur toute la terre règne avec la paix, justice et liberté. Nous voulons des pays abolir les frontières. Tous les peuples sont faits pour la fraternité. Nous, nous voulons, amis, que sur toute la terre règne avec la paix, justice et liberté. Nous voulons des pays abolir les frontières. Tous les peuples sont faits pour la fraternité. Nous voulons des pays abolir les frontières. Tous les peuples sont faits pour la fraternité. Nous, nous voulons, amis, que sur toute la terre règne ta